Bonjour Edoulé. On le sait tous, la météo, ça fascine autant que ça peut agacer, hein. Surtout quand elle ruine nos plans. On garde les prévisions, mais bon, on est quand même souvent surpris. Et si on comprenait juste un peu mieux les bases, peut-être que ça rendrait tout ça plus clair. C'est un peu l'idée aujourd'hui. On va faire une petite exploration au cœur même de ce qui fait la météo. On a quelques notes, là, assez claires, et on va s'en servir pour regarder les trois éléments clés. La pression, la température et puis l'humidité. Et on va aussi toucher du doigt une idée qui ressort. L'air, bah, ça ne se mélange pas si facilement. Ça forme des blocs, des masses d'air. Donc l'objectif, c'est de décortiquer un peu ces trois concepts, pression, température, humidité, pour voir comment ils jouent ensemble et comment bah, ça crée le temps qu'on observe tous les jours. Prêt pour cette petite mécanique? Alors, pour commencer, la pression. La pression atmosphérique, on en entend parler tout le temps dans les bulletins météo, mais c'est quoi exactement?
Dit simplement, c'est juste le poids de l'air au-dessus de nous. Imaginez une immense colonne d'air, invisible, qui appuie sur tout. Oui, c'est une bonne image. Et cette pression, on la mesure en pascal, mais en météo, c'est vrai qu'on préfère l'hectopascal, le HPA, c'est plus pratique. Et il y a une valeur de référence standard, on va dire, c'est 1013,25 HPA. Au niveau de la mer, c'est notre point de comparaison en quelque sorte.
D'accord, 1013,25. Et alors, sur une carte, quand on voit des chiffres plus hauts ou plus bas que ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Ah, bah c'est là que ça devient intéressant pour les prévisions. Quand la pression dépasse, disons, 1015 HPA, on parle de haute pression. C'est un anticyclone. Et dans ces zones-là, l'air a tendance à descendre, tout doucement, vers le sol. Et en descendant, cet air, il s'assèche un peu et il se réchauffe légèrement. Ce qui fait qu'il empêche les nuages de se former.
Ah d'accord, donc haute pression égale l'air descend égale pas de nuages, en gros.
C'est ça, en gros. C'est pour ça que les anticyclones, c'est souvent synonyme de temps calme, sec et souvent bien ensoleillé.
Logique. Et à l'inverse alors, la basse pression.
Exactement l'inverse. Quand ça descend sous les 1013 hectopascales, là on est dans une dépression, basse pression. Et là, l'air fait le contraire, il près du sol, il converge et hop, il est forcé de monter. En montant, il se refroidit. Et s'il y a assez d'humidité?
L'eau condense.
Voilà, la vapeur d'eau condense, ça forme des nuages et potentiellement bah, de la pluie, de la neige. Les dépressions, c'est le lieu privilégié du temps, disons, plus agité.
Et ces lignes bizarres sur les cartes, les isobars, c'est quoi leur rôle là-dedans?
Alors ces lignes, elles relient tous les points qui ont la même pression au même moment. Elles dessinent un peu la carte des anticyclones et des dépressions, leur forme, leur taille. Et ce qui est super intéressant, c'est leur espacement. Plus les lignes sont serrées, plus la différence de pression est forte sur une petite distance.
Et donc plus de vent?
Exactement. Plus ça souffle fort. Le vent, il essaye toujours d'aller de la haute vers la basse pression pour équilibrer tout ça. Donc isobare serré, vent fort. C'est vraiment une carte clé pour nous météorologues.
Je vois, je vois. C'est bien plus qu'un chiffre, cette pression. C'est dynamique. Bon, passons au deuxième pilier alors, la température. On a une moyenne de référence, 15 degrés Celsius, c'est noté. Mais physiquement, le truc important à retenir, c'est quoi?
Le principe fondamental, et ça c'est vraiment, vraiment clé en météo, c'est que l'air chaud, il est plus léger que l'air froid. Pour un même volume, l'air chaud a moins de molécules, il est moins dense. Du coup, naturellement, il a tendance à monter.
Ah oui, un peu comme une montgolfière, non? On chauffe l'air dedans et hop, elle décolle.
C'est exactement ça. L'image est parfaite. L'air chauffé est moins dense que l'air autour et il monte. Et à l'inverse, bah, l'air froid, il est plus dense, plus lourd. Lui, il a tendance à descendre ou à rester collé au sol. Cette différence de densité, de poids, entre l'air chaud et l'air froid, c'est vraiment la base des mouvements verticaux dans l'atmosphère.
D'accord. Et ces mouvements verticaux, pourquoi c'est si fondamental?
Qui redescend. C'est ça qui brasse l'atmosphère, qui redistribue la chaleur. Et c'est directement lié à la formation de plein types de nuages. Des petits cumulus de beau temps jusqu'aux énormes cumulonimbus d'orage. Sans ces mouvements verticaux, dus aux différences de température, l'atmosphère serait beaucoup plus calme, beaucoup plus statique.
C'est le soleil qui chauffe le sol inégalement qui lance tout ça, j'imagine.
Tout à fait. Une surface sombre absorbe plus, l'air au-dessus chauffe, devient léger, monte. Ça crée comme un appel d'air qui attire de l'air plus frais des environs. C'est un cycle qui tourne en permanence.
Compris. Donc, la température, c'est pas juste une sensation pour nous, c'est l'énergie qui fait bouger l'air de haut en bas. Ok. On a la pression pour les grands systèmes et le vent, la température pour le vertical. Reste le troisième larron, l'humidité.
L'humidité, oui. Alors ça, c'est simplement la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air. Cette vapeur d'eau, elle est invisible, hein, mais elle est partout, plus ou moins, et c'est l'ingrédient indispensable pour faire des nuages et des précipitations.
Et on parle souvent d'humidité relative, c'est ça qu'on mesure au quotidien.
Oui, c'est la mesure la plus courante. L'humidité relative, c'est un pourcentage. Ça nous dit, par rapport au maximum de vapeur d'eau que l'air pourrait contenir à cette température et cette pression précise, combien il en contient réellement. C'est important parce que la capacité de l'air à stocker de la vapeur d'eau, ça dépend énormément de sa température. L'air chaud peut en contenir beaucoup, beaucoup plus que l'air froid.
Ah, c'est pour ça qu'il peut faire très lourd, très moite, en été, même si l'humidité relative n'est pas à 100%.
Exactement. Il y a beaucoup de vapeur d'eau en valeur absolue, mais l'air chaud a encore de la place pour en stocker.
D'accord. Et les sources parlent aussi du point de rosée. C'est quoi la différence avec l'humidité relative? Ça a l'air proche.
C'est proche, mais c'est une distinction subtile mais très importante. L'humidité relative, c'est un rapport, un pourcentage. Le point de rosée, c'est une température. C'est la température exacte à laquelle il faudrait refroidir l'air actuel sans changer sa quantité de vapeur d'eau pour qu'il arrive à 100% d'humidité relative, pour qu'il soit saturé, quoi.
1. C'est la température où l'air dit stop, je suis plein, et l'eau doit redevenir visible.
C'est exactement ça. C'est le seuil critique de la condensation. Si la température de l'air descend jusqu'à son point de rosée, ben la vapeur d'eau n'a pas le choix. Elle doit redevenir liquide ou solide si on est sous 0 degré.
D'où la rosée le matin ou le brouillard?
Précisément, la rosée sur l'herbe, le brouillard près du sol ou les nuages plus haut quand l'air monte et se refroidit. Tout ça se forme parce que l'air atteint son point de rosée. Du coup, le point de rosée, c'est un bien meilleur indicateur de la quantité réelle absolue de vapeur d'eau dans l'air. Un point de rosée élevé, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'humidité disponible, même si l'humidité relative est, disons, à 70%.
Ok, je crois que je saisis mieux. Humidité relative égale à quel point l'air est rempli maintenant, point de rosée égale à quelle température il serait complètement plein. C'est ça?
Parfaitement résumé. Et cette idée de saturation, elle est vraiment au cœur de la formation des nuages.
Bien, on a nos trois acteurs. Pression, température, humidité. On voit comment ils interagissent. Mais tout ça se passe où exactement? Les documents pointent vers une couche bien précise de l'atmosphère.
Oui, effectivement. L'immense majorité de la météo qu'on vit tous les jours, ça se joue tout en bas, dans la couche la plus basse, la troposphère. C'est la couche qui touche le sol.
Et elle est si importante que ça, elle a l'air toute fine sur les dessins.
Relativement fine, oui. Son épaisseur varie à peu près 8 km au pôle et ça monte jusqu'à 15-16 km à l'équateur. Mais cette mince couche, elle contient quelque chose comme 90% de toute la masse de l'air de la planète et quasiment toute la vapeur d'eau.
Ah oui, quand même. Donc toute l'action se passe là, en fait.
C'est ça. C'est là qu'il y a l'énergie, les ingrédients, tout ce qu'il faut pour faire la météo.
Et qu'est-ce qui la caractérise, cette troposphère, à part qu'elle contient tout?
Sa caractéristique principale, bien notée dans nos sources, c'est que la température y baisse de façon assez régulière quand on monte en altitude. En moyenne, c'est environ 6,5 degrés Celsius de moins tous les kilomètres. On appelle ça le gradient thermique vertical.
Et ça boucle avec ce qu'on disait sur l'air chaud qui monte.
Exactement. L'air chauffé au sol monte et en montant, il rencontre de l'air de plus en plus froid à cause de ce gradient. Et c'est ce refroidissement en altitude qui est essentiel. Si l'air est assez humide, en se refroidissant, il va finir par atteindre son point de rosée.
Ah, et hop, condensation, nuage.
Voilà. La structure thermique de la troposphère est donc directement liée au mouvement de l'air et à la fabrication des nuages et de la pluie. C'est vraiment la scène de théâtre de, on peut dire, 99% de la météo. Au-dessus, dans la stratosphère, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus sec.
D'accord. Bon, si on essaye de mettre toutes les pièces ensemble, on a la pression atmosphérique. Elle dessine les grandes zones calmes ou agitées et elle influence le vent. On a la température. Ces différences créent les mouvements verticaux, la convection. Et on a l'humidité, avec ce fameux point de rosée comme seuil pour que ça devienne visible, nuages, brouillard quand l'air se refroidit. Et tout ça se passe dans la troposphère, cette couche où il fait de plus en plus froid en montant. C'est à peu près ça la synthèse?
C'est une excellente synthèse des bases, oui. Et rien que comprendre ces interactions, même de façon un peu générale, ça change déjà le regard qu'on porte sur le bulletin météo, non? On ne voit plus juste des soleils ou des gouttes de pluie, on commence à imaginer un peu ce qu'il y a derrière. Ah tiens, un gros anticyclone, l'air descend, pas étonnant qu'il fasse beau. Ou alors, oula, une dépression qui arrive, l'air va monter, il y a de l'humidité, attention aux averses.
Oui, c'est vrai, ça rend les choses moins arbitraires. On sent qu'il y a une logique. Et au quotidien, ça peut aider à, je sais pas, mieux anticiper.
Ah, mais certainement. Savoir qu'une pression qui chute vite, c'est souvent mauvais signe. Ou qu'un point de rosée très haut en plein été, ça rend les orages plus probables si le soleil tape fort. Ce sont des indices concrets. Ça permet de développer une sorte de petite intuition météo, de mieux comprendre pourquoi les temps changent comme ci ou comme ça, selon d'où vient le vent, par exemple. On devient un observateur un peu plus averti.
C'est motivant comme perspective. Pour finir, juste revenir sur cette idée du début, là, tirée des sources. L'air qui ne se mélange pas facilement, qui forme des masses d'air. Qu'est-ce que ça implique, ça?
Ah, ça, c'est un concept vraiment essentiel pour aller plus loin. L'atmosphère, elle n'est pas du tout uniforme. Il y a d'énormes volumes d'air, immenses, qui restent un moment au-dessus d'une région, le pôle Nord en hiver, l'océan tropical. Et pendant ce temps, ils prennent les caractéristiques de cette région. Froid et sec sur le pôle, chaud et humide sur l'océan tropical, par exemple. Ils deviennent assez homogènes en température et en humidité.
Des sortes de grosses bulles d'air avec leur propre personnalité, quoi.
C'est un peu ça, oui. Des masses d'air. Et ensuite, ces énormes masses, elles se déplacent, elles voyagent, au gré des grands courants atmosphériques.
D'accord. Donc on a ces géants, froids et secs, chauds et humides, qui se baladent.
Exactement. Et la question qui vient tout de suite après et qui ouvre sur beaucoup de choses, c'est « Mais que se passe-t-il quand ces masses d'air, avec des propriétés si différentes, si contrastées, finissent par se rencontrer ? Qu'est-ce qui se passe quand l'air froid, dense, qui arrive du nord, vient buter contre l'air chaud, léger, humide, qui remonte du sud ?»
Une confrontation inévitable, j'imagine. Qu'est-ce qui peut bien sortir de ce choc des titans atmosphériques? Voilà une question fascinante. Ça laisse songeur. Et ça ouvre sûrement la porte à toute l'histoire des fronts, des perturbations. Passionnant pour une prochaine fois.